En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame, monsieur, bonjour. Dans cette émission, vous allez entendre Leïla Anvar, maître de conférence en littérature persane et spécialiste de poésie mystique. Elle intervenait lors du colloque organisé par la Fondation Ostad Elahi à l'occasion de la 10e journée de la solidarité humaine le 10 septembre 2011 sur le thème « Quelle sagesse pour notre temps ?». Leïla Anvar a intitulé son intervention « La quintessence des religions » chez Ostad Elahi. Ce sera donc l'occasion de découvrir la personnalité et la pensée de l'humaniste persan Ostad Elahi. L'émission que vous allez écouter se divise en deux moments, deux parties. Dans la première et durant une dizaine de minutes, Leïla Anvar développe son propos. Dans la seconde, elle répond à quelques questions posées par le journaliste Jacques Pogam.
Ostad Elahi, puisqu'il s'agit de lui, fait partie des grands sages méconnus du XXe siècle. Je dis bien un grand sage, à la fois par sa pensée et par la manière dont il a vécu, et surtout par la manière dont il a vécu et par la manière dont il a réussi à extraire de sa propre vie une pensée qu'il a voulu ensuite transmettre, une pensée de la sagesse. Et s'il n'est pas très connu, c'est une des preuves de sa sagesse. Car de son vivant, beaucoup de gens ont voulu le faire connaître, que ce soit comme musicien, puisqu'il était un immense musicien du tambour kurde, mais aussi en tant que penseur mystique. Beaucoup de personnes sont venues le voir, que ce soit d'Iran, où il vivait, ou d'Europe, ou des États-Unis, pour le faire connaître. Et chaque fois qu'il leur répondait, il leur disait « Vous pouvez utiliser cet enseignement que je vous donne, mais ce n'est pas la peine de me citer nommément ». N'est-ce pas là un signe de très grande sagesse que cet effacement ? Alors donc je disais un sage mystique, même si ça peut paraître paradoxal de mettre ces deux mots ensemble, dont la pensée en tout cas se résumait en fait à développer la raison saine pour se connaître et connaître par là la vérité. Le meilleur terrain de connaissance, c'est à la fois le soi et la société pour Ostad Elahi. C'est pourquoi il a vécu une vie sociale active et qu'il recommandait toujours une vie sociale active en dehors de laquelle aucune véritable sagesse n'est possible. Il était, je l'ai dit, musicien, mais il était aussi magistrat. Et je dirais que le point commun entre ces deux disciplines, c'est à la fois la maîtrise de soi, l'exactitude et le désir de vérité. Quand je dis vérité, je veux dire par là qu'un bon musicien est toujours quelqu'un qui est sincère. Donc il a maille à partir profondément avec la vérité. Toute sa vie a été orientée vers la quête de la vérité, mais plus encore et plus fondamentalement vers la pratique de la vérité. Et c'est à cela que je voudrais venir dans ce petit texte que je vais commenter. Parce que pour Ostad Elahi, la sagesse est avant tout, primordialement, une pratique. Alors ce qui m'a amené, peut-être juste pour prendre une minute là-dessus, ce qui m'a amené vers Ostad Elahi, moi qui suis plutôt spécialiste de la mystique amoureuse persane, donc plutôt du côté de l'émotion que du côté de la raison, c'est que précisément, voilà un homme qui, en plein XXe siècle, reprend toute la tradition spirituelle et mystique dont il est pétri, et Dieu sait que la tradition spirituelle iranienne est riche, mais il la reprend, il la connaît fort bien, il a une connaissance livresque et théorique extrêmement vaste, il la reprend pour arriver à une conclusion inouïe, surtout pour les Iraniens, c'est que la mystique classique met la charrue avant les bœufs, si j'ose dire. Puisque la mystique classique commence par l'amour, en rejetant la raison, puisque la mystique classique s'appuie sur l'émotion pour arriver à la connaissance de soi et de Dieu, alors que Ostad Elahi a comme ligne de force dans sa pensée que c'est au contraire la raison saine qui doit mener dans un horizon très très lointain à l'expérience de l'amour divin. Donc le mouvement est totalement inversé, bien qu'il soit l'héritier de cette tradition. Sa quête a été toute sa vie, pour lui-même et dans son enseignement, une quête de la quintessence. D'où ce texte, donc, qu'il a donné sous forme d'un poème en persan, mais dans lequel il résume donc la quintessence des religions. Il a dit par ailleurs dans son enseignement oral la chose suivante, qui montre à quel point il avait cette préoccupation de trouver une formule quintessentielle qui permette à l'individu de se développer, de vivre dans la société et en même temps de cheminer vers Dieu. Donc il y a tous ces éléments ensemble. Il disait « Toutes ces choses que je vous dis, ce n'est pas pour vous raconter des histoires, mais pour transmettre un enseignement. Tant que je n'ai pas moi-même pratiqué quelque chose, il est impossible que je le conseille à quelqu'un. Et tant que je n'ai pas exploré en profondeur une idée, de sorte qu'elle ne soit contestable ni dans ce monde ni dans l'autre, je ne l'exprime pas. Je n'ai imité personne et tout ce que je dis est le résultat de mes propres observations et de mes propres expériences. J'ai résumé la quintessence de toutes les religions en quelques mots et je l'ai mise à la disposition de ceux qui marchent vers la vérité. » Et voici donc cette quintessence des religions. « Si tu veux connaître l'essence de la religion, voici les principes et convictions qu'il te faut adopter. Tout d'abord, mets ta foi en Dieu, Dieu unique, sans égal et invisible, sans associé, lui qui fut et sera de toute éternité. » Vous allez me dire, j'aurais dû faire cette intervention ce matin, puisqu'il est question, ça commence par Dieu, en plus un Dieu unique, sans égal, enfin, avec tous les attributs qui le caractérisent dans les différents monothéismes. On va voir que les différents monothéismes, ce n'est pas que le judaïsme, le christianisme et l'islam, mais aussi le zoroastrisme, qui est la religion ancienne des Iraniens. En tout cas, oui et non, on va voir qu'à la fin, il va reprendre cette idée de Dieu, et que il aurait presque fallu ne pas traduire par Dieu, mais par divin. Car dans la pensée d'Ostadelaï, Dieu est finalement un concept trop ancré dans des dogmes particuliers, et qu'il vaudrait peut-être mieux parler du divin, précisément, comme l'un, et comme une idée, en fait, de la vérité. Mais je vais y revenir tout à l'heure, parce que comme ça, c'était plutôt pour ce matin, je le laisse de côté, on en a parlé. C'est surtout la suite qui est plus adaptée à cet après-midi. Ensuite, tout être, quel qu'il soit, considère-le en bien, car à l'origine, aucune créature n'est mauvaise. Il n'est de mal que les actes, non ceux qui les commettent. Et contre de tels actes, ton devoir est de lutter. Alors, c'est un petit texte qui semble très simple, qui semble énoncer des évidences, quelque part. Mais en même temps, je voudrais vous signaler que toute une métaphysique se déploie ici. Alors, au-delà de la question de Dieu et de l'au-delà, vous voyez que la première chose qu'il donne dans cette quintessence, la première chose pratique, je dirais, dont il parle dans cette quintessence des religions, c'est la question du mal. Et on va voir tout à l'heure que ce sera la question du bien. C'est-à-dire qu'au cœur de ce texte, au début on a Dieu, à la fin on va revenir à la foi, mais au cœur, on a le mal et on a le bien. Parce que finalement, la sagesse opérationnelle, si j'ose dire, doit répondre à ces deux questions fondamentales. Qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que je ne dois pas faire et qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je ne dois pas le faire et pourquoi je dois le faire? Et c'est à cela que finalement se résume cette sagesse. Mais aussi, et ça c'est très intéressant, il invite à changer de regard. Aucune créature n'est mauvaise. Quand je dis que toute une métaphysique se déploie, Ostadelaï est clairement du côté de ceux qui pensent que le mal n'existe pas. Le mal est un accident, et c'est quelque chose qui n'a pas d'existence propre. Pourquoi? Alors précisément à cause de ce fondement qu'on avait au début, parce qu'il y a un divin créateur, un être créateur, qui a fait ces créatures, qui est le bien absolu, et qui ne crée pas le mal. Le mal est l'apanage des hommes, lorsqu'ils agissent en mal. Donc, il nous invite à changer de regard, et il nous invite aussi, au fond, à regarder plutôt la poutre qui est dans notre œil plutôt que de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin. C'est très intéressant. Ne vois rien en mal. Si quelqu'un commet le mal, c'est juste l'acte qui est mauvais, c'est pas l'essence de la personne. Mais aussi, contre de tels actes, ton devoir est de lutter. Ça veut pas dire lutter contre ceux qui font le mal. Ça veut dire lutter contre les pulsions de mal que chacun a en lui-même. Je précise, au cas où. Et donc, il y a ce premier mouvement de l'éthique, qui est le premier mouvement aussi de la sagesse, qui est aussi la base du développement de ce que Ostadelaï appelle la raison saine, c'est d'éviter le mal. Et on voit bien aussi que ça va l'amener immédiatement à la question du bien. Et là, justement, je voudrais faire une parenthèse en disant, puisqu'on a parlé de beaucoup de religions ce matin, en disant que dans la religion ancienne des Iraniens, que Ostadelaï connaissait fort bien et qu'il a plusieurs fois cité dans ses écrits, il y a cette maxime de Zoroastre qui dit en réalité que toute la vie humaine bien menée, une vie humaine sage, se résume en trois points. Dire le bien, faire le bien et penser le bien. Et en fait, avant de dire le bien, penser le bien et faire le bien, eh bien, il faut éviter de dire le mal. Et c'est pas Michel Lacroix qui me contredira. Et éviter de faire le mal et éviter de penser le mal. Et on voit les trois se déployer ici de manière assez concise, mais se déployer dans la notion qu'il a du mal. Alors maintenant, le bien. Donc, Le bien, c'est quoi ? Quant aux hommes de bien, reconnus comme tels, tu te dois de les respecter quel que soit leur rang. Enfin, en tout temps et en tout lieu, ce qui est considéré par les sages comme bon, qui engendre l'ordre et la paix pour les hommes, qui émane du droit, observe-le pour toi et envers les autres, et de ce qui est contraire à cela, éloigne-toi. Plusieurs choses très intéressantes. La première, c'est ce qui est considéré par les sages comme bon. Et je me dis que peut-être la Fondation au Stade de l'AI a une excellente idée d'organiser cette journée, puisque cette journée a pour but de nous dire qu'est-ce que les sages considèrent comme bon. Et ce projet, il est tout à fait en accord avec ce projet de Stade de l'AI. Il est en accord avec ce que je vous ai dit tout à l'heure de sa quête, c'est-à-dire d'entendre tout ce que la tradition, les traditions, les sages, les envoyés, tous les grands spirituels nous ont dit pour en tirer la quintessence et surtout en tirer un enseignement pour notre vie de tous les jours, dans notre interaction avec nous-mêmes, avec les autres et avec le divin. En tout cas, le mot « sage » ici, qui a été traduit par « sage », en persan, c'est « orel ». Or, « orel », c'est celui qui pratique le « arl », qui veut dire précisément la raison. Donc, le sage est éminemment quelqu'un de raisonnable. Et en ce sens, je n'aurai pas le temps de développer cela ici, il y a énormément de points communs entre la pensée de Stade de l'AI et la pensée de Socrate, en particulier dans l'articulation de la raison, mais aussi, et je finirai donc là-dessus, puisqu'il ne me reste plus qu'une minute, sur la question de la foi qui revient à la fin du texte. Alors tu pourras adopter toute croyance qui ne soit pas contraire à ces principes, à condition qu'avec foi tu en appliques les commandements. Nour Alif, c'est-à-dire au Stade de l'AI, fit des recherches et trouva cela qui est en vérité la quintessence des religions. La question de la foi ici est fondamentale. Je vais juste la traiter en deux phrases, en ramenant aussi à la fin de la République, lorsque Socrate dit, après cet immense dialogue de la République, on lui a posé la question « qu'est-ce que la justice ?» Il leur dit finalement « je ne peux pas vous prouver par A plus B ce que c'est que la justice. Ayez foi dans mes paroles. Pratiquez-les. À ce moment-là, vous deviendrez chers à vous-même et aux dieux. » Et Ostade Elahi dit exactement la même chose. Il n'y a pas même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre raison et foi, bien au contraire. La foi est à la fois le socle sur lequel se développe la raison saine et en même temps l'épanouissement humain vers lequel tend chacun. Il dira d'ailleurs par ailleurs, être un animal humain comme c'est facile, mais devenir un être humain comme c'est difficile. Alors dans ce texte, qui a l'air si simple, mais pourtant si compliqué, si on veut en pratiquer tous les détails et devenir enfin sage, mais Anne Bodard nous a dit que nous ne deviendrons jamais enfin sages, en tout cas pas dans ce monde. Il nous dit bien dans ce texte quelle est la démarche programmatique et surtout il nous dit que la sagesse est avant tout action. Il y a la foi, il y a les croyances, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est très important, c'est qu'il nous dit si tu veux comprendre l'essence de la religion, et après il n'emploie que des verbes d'action. Il emploie des verbes comme lutter, faire, agir. Et au cœur de son texte, il y a avant tout la pratique. Donc il tient les deux, il tient les trois, la raison, la foi, la pratique. Et je crois que c'est sur ces trois axes que se déploie la pensée de la sagesse telle que la conçoit au Stade de l'AI.
Alors si l'on prend le premier point, c'est-à-dire la foi, et sans vouloir revenir à ce matin, mais puisqu'il s'agit d'un des piliers de la sagesse, si j'ai bien compris, il y a une espèce d'imbrication permanente entre connaissance de soi et connaissance de Dieu, c'est ça ?
Oui.
Je lis un texte là, tu ne peux connaître Dieu, au Stade Elahi, hein, tu ne peux connaître Dieu qu'à la mesure de la parcelle divine qui est en toi, donc efforce-toi de te connaître toi-même afin que tu puisses ainsi connaître Dieu. C'est totalement imbriqué.
Oui. On peut affirmer que c'est imbriqué, on le voit d'ailleurs dans ce texte, mais encore une fois, je voudrais insister sur le fait que c'est parce que la nature humaine est fondamentalement divine. Donc, se connaître soi-même, c'est connaître le divin aussi dans ce sens-là. Il dira par ailleurs, hein, pénètre en toi-même pour trouver Dieu. Quand tu auras trouvé Dieu, finalement, tu auras tout résolu. Parce que, évidemment, il n'y a absolument pas de doute. Il y a un Dieu, d'ailleurs, qui englobe toute chose, y compris l'homme qui cherche à le connaître. Donc c'est en ce sens que se connaître soi-même, c'est arriver au divin. Parce que c'est connaître la véritable nature de son être qui est divine.
Alors tout à l'heure, on parlait de Marc Aurèle. J'ai l'impression, en lisant au Stade de l'AI, qu'on retrouve également cette dimension-là. C'est-à-dire que mûrir sa propre humanité, c'est en même temps faire mûrir l'humanité entière. Enfin, on n'est jamais seul, on est toujours lié aux autres, c'est ça ?
Absolument, à plusieurs égards. Hein. D'un côté, du point de vue personnel, puisqu'il dit qu'en fait, l'âme ne peut arriver à sa maturation qu'en relation avec les autres, à la fois parce que les autres sont, la société est un laboratoire dans lequel on est confronté précisément à nos propres pulsions d'abord, et puis aux pulsions des autres, mais aussi parce que finalement, et ça c'est le point peut-être encore plus fort, c'est parce que il y a dans le mouvement vers l'autre quelque chose qui est irremplaçable. C'est-à-dire que l'autre est indispensable à la réalisation de ma propre humanité. Et ça, c'est tout le thème dont on a parlé ce matin aussi. C'est l'empathie, la miséricorde, l'altruisme. C'est-à-dire que ce sont des choses dont on ne peut pas se passer dans un mouvement de connaissance de soi, parce que se connaître soi-même, c'est aussi intégrer l'humanité de l'autre.
Alors très concrètement, au niveau d'une sagesse de tous les jours, il y a, moi, deux choses qui m'ont frappé dans les textes que j'ai pu lire de Stadelaï. La première chose, c'est l'importance qu'il attache à nos relations avec le pouvoir, y compris à titre personnel, en disant que la cause de tous les égarements, si j'ai bien lu, c'est l'amour du pouvoir.
Oui, 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 il le dit plusieurs fois.
Il le dit, ça, oui.
Il le dit, et il le dit d'ailleurs dans différents sens, absolument. C'est-à-dire, pour lui, le pouvoir, c'est l'anti-spiritualité par excellence. C'est-à-dire que le pouvoir est anti-spirituel. Voilà,
alors
il y a le versant, évidemment, plus évident, c'est le versant politique. Il dira toujours, on ne peut pas mélanger. Il faut choisir entre la spiritualité, le développement de la sagesse et la politique. C'est pour ça que ça m'a interpellée. Il y a certaines choses qui m'ont interpellée tout à l'heure dans ce qu'on disait. En tout cas, voilà.
Il reste Saint-Louis, quand même. Il reste Saint-Louis.
Oui, non, mais bien sûr, il y a des exceptions. Mais disons que globalement, en général, quand on veut le pouvoir politique, c'est rarement pour de bonnes raisons ou parce qu'on veut devenir plus sage. C'est assez rare, disons. En tout cas, c'est ce que pense Stadelaï. Là-dessus, je pense que beaucoup seront d'accord. Mais il y a plus subtil. C'est-à-dire qu'il pense que, en spiritualité aussi, un des grands écueils qui nous empêche d'avancer, c'est l'amour du pouvoir spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance générale dans l'histoire des idées qui tend à penser que le fait d'avoir des pouvoirs spirituels est un signe de pouvoir spirituel, justement, si j'ose dire. En tout cas, de réalisation personnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui fait des miracles ou quelqu'un qui a le pouvoir de, je sais pas quoi, de le lire dans les pensées, etc. Donc tout ce genre de pouvoir, voire même des gens qui ont l'impression de se maîtriser eux-mêmes. J'étais très sensible à ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il y a un danger à croire qu'on a pouvoir sur soi-même. Même croire qu'on a pouvoir sur soi-même, ça arrête celui qui est en train de cheminer vers la connaissance. Parce que, justement, il devient enivré de son propre ego. Or, l'ego est l'obstacle majeur à la connaissance de soi.
Alors, tout
ça, je pense que tout le monde est d'accord. Toutes les sagesses sont d'accord là-dessus.
Anne Bodard nous parlait, au sujet de Cicéron, du thème du désir. Ce qui est frappant chez Ostadelaï, là, il n'y a pas à tourner autour du pot. Le plaisir, attention, quoi.
C'est plus subtil que ça.
J'ai lu « Le plus grand plaisir est le renoncement au plaisir ».
Absolument. Vous citez bien vos classiques.
Ça me fait peur.
Non, parce que...
Ça me fait peur.
Non, mais ça vous fait peur parce que peut-être vous le comprenez de...
Si vous aviez vu ce qu'au déjeuner, nous avons eu une entrée, le plaisir. Et je pensais au stade Elaï, j'ai le plus grand plaisir et le renoncement au plaisir. Il aurait fallu que je me prive.
Non.
Expliquez-moi.
Pas du tout. Alors, je vais vous citer une autre anecdote qui est aussi du même Ossad Elaï. Il dit qu'un jour, il passait dans la rue et il y avait un ouvrier qui était en train de manger juste du pain. Et après avoir mangé son pain, il a fait un rot bien senti. Et Ossad Elaï raconte, il dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est magnifique, quelqu'un qui a autant de plaisir à manger son pain. Et ça... Ça relève, ce plaisir-là relève de la gratitude des dons de Dieu. Et ce plaisir-là, non seulement il n'est pas question d'y renoncer, puisque Ostadelaï est absolument contre toute forme de mortification du corps. Au contraire, c'est-à-dire que entrer dans un plaisir légitime qui est celui de manger une nourriture saine, non seulement c'est pas mauvais, mais c'est même bon. Parce que c'est un don de Dieu. Ce qui est mauvais, ce sont les plaisirs et les pulsions illégitimes. Et c'est contre cela qu'il s'agit. C'est à cela qu'il s'agit de renoncer.
Donc il aurait fallu en plus qu'on fasse une action de grâce. La prochaine fois, on fera une action de grâce. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous êtes passé assez vite là-dessus, mais il me semble que c'est capital chez Ostadelaï, cette idée qu'on n'est pas sage seul dans son coin, là, on n'est pas sur l'Aventin, il faut s'incarner. Alors, dans sa vie, c'est assez extraordinaire. À 24 ans, il change tout, lui.
Oui, absolument. On aurait pu finalement faire le résumé de sa sagesse en faisant le résumé de sa vie.
C'est quand même étonnant.
Puisqu'en effet, il a pratiqué le renoncement au plaisir, y compris parfaitement légitime, pendant toute sa jeunesse, puisqu'il a pratiqué la spiritualité tout à fait classique. Il a vécu pendant 24 ans dans une ascèse quasi permanente, il jeûnait quasi en permanence, dans une vie absolument contemplative, retirée du monde, entièrement consacrée à toutes les formes que pouvait prendre la spiritualité, que ce soit les jeûnes, la prière, les pèlerinages, la musique, bien sûr, qui a joué un très grand rôle dès son plus jeune âge. Et puis à 24 ans, il est arrivé à un accomplissement parfait dans ce domaine, mais il se dit, finalement, il faut mettre cela à l'épreuve, parce que si on n'éprouve pas ce que l'on a acquis, ce qu'on croit en tout cas avoir acquis spirituellement, ça n'a pas de valeur. Et il part dans le monde, il devient magistrat, métier très difficile partout dans le monde, mais particulièrement difficile en ce début du XXe siècle en Iran, puisque c'est le moment où le droit laïque se met en place. Il a d'ailleurs contribué à la mise en place de ce droit laïque, de cette justice laïque en Iran. Et il est confronté, bien sûr, à tous les problèmes de corruption, etc., qu'on peut imaginer. En tout cas, il pratique, et c'est très intéressant qu'il était magistrat, parce que donc, quand il parle de droit et de justice, il sait vraiment de quoi il parle. Et c'est sans doute un hasard qu'il ait choisi ce métier de magistrat, puisque ça a à voir avec cette question de justice qui est quand même au centre de l'interrogation sur la sagesse. Et il met ça en pratique, et il dira plus tard qu'une heure passée dans la société a autant de valeur que 10 ans passés, ou enfin je me souviens plus de la proportion, mais en tout cas c'est une proportion très très importante. Donc 10 années passées en ascèse ne valent pas une heure de lutte contre le soin impérieux, ça veut dire précisément les mauvaises pulsions du ça, donc en plein milieu de la société.
Alors vous évoquiez rapidement ses qualités de musicien, en fait il a été un grand musicien. On peut le dire, puisque
oui.
Maurice Béjart avait pour lui une admiration sans limite. Quel lien vous faites entre, chez lui, la recherche de la sagesse et justement cette vocation de musicien exercée parallèlement à ses activités dans la société? Qu'est-ce que la musique venait faire là-dedans?
Ce que la musique venait faire là-dedans, c'est de créer... Alors pour Ostad Elahi, la musique a pour but de relier l'âme au divin. Donc on en revient à nouveau à ce dont on parlait au début, c'est-à-dire le divin. Et en même temps, la musique a pour fonction, comme la prière d'ailleurs, de donner à l'âme l'énergie qui lui permet ensuite de mener ce travail extraordinairement exigeant, qui est précisément la pratique éthique au quotidien. Donc la musique est à la fois un moyen de se relier au divin et une nourriture pour l'âme. Et il le dit beaucoup, qu'il n'a jamais compté son temps pour la musique, parce que justement, c'est un espace dans lequel il entrait en communication avec le divin, et c'est quelque chose, je crois, qu'il n'aurait échangé pour rien au monde.
Alors donc, pour répondre à Anne Bodard tout à l'heure et ce mot inaccessible, Anne, n'est-ce pas? Est-ce que la musique, ça n'est pas une façon de contourner ce mot d'inaccessible, au fond? Est-ce que par la musique, il arrivait à avoir un contact quasi viscéral avec...
Oui, mais à nouveau, ça ne remplace pas le travail. C'est-à-dire que la musique vient en plus, en aide, en adjuvant. Mais la musique seule ne vous permet pas de devenir sage.
Alors, il y a une chose tout à fait extraordinaire, en tous les cas, moi, qui m'a paru extraordinaire, en préparant ce colloque, donc organisé à l'occasion du 10e anniversaire des événements du 11 septembre. Savez-vous quel jour est né Ostad Elahi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait ça? Oui. Il est né un 11 septembre. Vous prenez ça comment? Attention, c'est piège que je vous dis, parce que on peut se dire, ah oui, gourou. Comment vous prenez ça?
Écoutez, ce qui est certain, c'est qu'Ostad Elahi a toute sa vie lutté contre l'esprit magique et l'esprit de superstition qui accompagne toute religion. Donc comment je le vois? Tout simplement comme un hasard de la chronologie.
Très bien, c'est... bravo, parce que c'était un piège. Mais ça y est, je vais me dire, voilà, c'est un signe de Dieu. Bon, enfin, bravo, vous savez déjouer les pièges.
Ce colloque « Quelle sagesse pour notre temps » organisé par la Fondation Ostad Elahi s'est tenu sous l'égide de l'Académie des sciences morales et politiques en partenariat avec Le Monde des religions et Canal Académie à la Fondation Simone et Sino Del Duca à Paris. Sur Canal Académie, vous pouvez entendre l'intégralité des interventions de ce colloque, soit 7 émissions au total. Vous pouvez aussi écouter une émission avec le philosophe Bernard Bourgeois de l'Académie des sciences morales et politiques qui présente ce colloque et surtout qui explique pourquoi notre époque n'est pas, selon lui, propice à trouver la sagesse. Voici les coordonnées de la Fondation Ostad Elahi Éthique et Solidarité Humaine, une fondation reconnue d'utilité publique. Adresse postale 59 avenue Victor Hugo, 75016 Paris. Téléphone 01 47 27 14 89, adresse courriel info@fondationostadelahi.fr et le site internet à consulter www.fondationostadelahi.fr.